ce matin, vous avez dit que l'exégèse et la théologie ont deux regards différents. J'ai dit deux sciences différentes. Je précise, venez, parce que tout est très... Il faut faire grande attention. Parce qu'il y a la foi commune. Alors quand on dit deux regards différents, on dit que la science est le fruit. Venez, le regard n'est pas un fruit. Vous savez, je corrige toujours sec, hein, je dis ça, ça fait partie de l'intelligence. Parce que si on corrige tout, on tombe dans la vaseline et c'est blondelle. Ça s'ennuie. Je l'aime beaucoup. C'est un très saint homme, blondelle. Il était très pieux, plein de dévotion, merveilleux. Mais une intelligence qui l'a gelé un peu. Je vous l'en lirai un coup, je vous en lirai. Et je dis Blondel, c'est pas bien. Très plus. Ça vous a emballé, Blondel, ma chère. Alors, la théologie regarde Dieu, le mystère de la foi. La théologie regarde Dieu par le mystère de la foi. Et le mystère de la foi, c'est évident, par la foi. L'exégèse, la parole de Dieu, quant à son conditionnement. Oui. Oui, tout à fait. Alors, l'Église, cependant, rappelle à l'exégèse catholique que ces sciences exégétiques ne lui suffisent pas et qu'il lui faut la foi, c'est sûr. La foi est au point de départ de l'exégèse. N'est-ce pas ? Faut pas l'oublier. Donc, des deux côtés, la foi est au point de départ. C'est en ce sens-là qu'il y a des rapports et des liens entre les deux. Les deux s'occupent de la parole de Dieu. C'est sûr. Mais l'intention de la théologie et l'intention de l'exégèse sont différentes, comme intention scientifique. Voyez, saint Thomas distingue l'objet matériel et l'objet formel, à la suite d'Aristote. L'objet matériel, c'est vrai, il y a quelque chose de semblable, puisque c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu peut être regardée de diverses façons. Nous y reviendrons là-dessus. Il y a une façon de regarder la parole de Dieu pour essayer d'expliciter dans la parole de Dieu l'enseignement de Dieu pour nous. L'intelligibilité, c'est par l'enseignement. Dieu qui m'enseigne. Puisque la révélation implique un enseignement. Dieu qui m'enseigne. Et c'est cet enseignement de Dieu que je cherche à comprendre de la manière la plus profonde, la plus précise, d'où théologie scientifique. La parole de Dieu est communiquée, je veux dire, la révélation est communiquée par la parole de Dieu. Donc il se sert des hommes, et d'hommes intelligents, et d'hommes poètes, et d'hommes qui ont une expérience de tout un contexte, de toute une sculpture. Ils se servent, ces hommes nous communiquent ce qu'ils ont reçu de Dieu. L'exégète s'intéresse à ce fait que cette parole est communiquée à telle date, à tel moment, sous telle influence, et aussi avec telle personne particulière. C'est pas la même chose. Le but de l'exégète n'est pas de regarder en premier lieu. Vous voyez, de regarder en premier lieu le point de vue de cet enseignement qui nous est communiqué, il l'atteindra nécessairement par la foi. Et l'exégèse, quand on a affaire à des grands exégètes, alors ils entrent profondément dans ce qui nous est communiqué à travers. Mais le moyen pour nous donner cet enseignement n'est pas le même. C'est en ce que je dis qu'il y a deux sciences différentes. Alors, ne faut-il pas dire que l'exégète catholique exige même de l'exégète d'être théologien ? Je suis assez d'accord avec ça. Mais tous les exégètes ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a un lien très fort entre les deux. Le père Lagrange était un théologien. Mais Pierre Lagrange faisait œuvre d'exégète. Il le savait. Il savait très bien qu'on enseignait la théologie dogmatique chez ses frères. Et le père Lagrange n'aurait jamais dit que son exégèse, c'était la théologie dogmatique. Et qu'elle remplaçait la théologie de saint Thomas. Il n'aurait jamais dit ça. Saint Thomas sait très bien que quand il commente saint Jean, ça ne remplace pas ce qu'il nous donne dans la Somme. Il le sait, puisqu'il écrit les deux. Et l'exégèse de Thomas est très liée à la théologie. Oui. C'est une exégèse très spéciale, l'exégèse de Thomas. Elle est très belle. Elle est très liée. Et au fond, pour Thomas, c'est la théologie. Au Moyen-Âge, c'était la théologie. La Somme, c'est un résumé. Tandis que, de fait, avec le modernisme, il y a une naissance d'une exégèse nouvelle qui répondait à ce modernisme. Là, il faut regarder le point de vue historique, ce qui est très intéressant. Alors, on va voir. Ne faut-il pas dire que l'exégète catholique exige même de l'exégète d'être théologien? En se servant de la théologie, non plus dans son caractère propre, dans sa finalité, qui est de conduire le croyant à la contemplation. Il y a la science aussi. Il y a les deux. Il y a une partie dans la théologie, je prends la théologie scientifique de saint Thomas, il y a une partie scientifique, rigoureuse, et puis il y a une partie où ça conduit à la contemplation. Mais pour que son interprétation du texte dans son conditionnement respecte le sens ultime de l'écriture, en se servant de la théologie non plus, mais pour que son interprétation du texte dans son... Mais il n'interprète pas dans son conditionnement. C'est ça qui est difficile. C'est là la difficulté. Est-ce que le rôle de saint Thomas, quand il est théologien, c'est de regarder le texte dans son conditionnement? Il se sert de l'Ancien Testament, il se sert du Nouveau Testament. Il ne fait pas une théologie de l'Ancien Testament, une théologie du Nouveau Testament. Il sert de toute l'écriture. Le théologien sert de toute l'écriture. Et de toute l'écriture avec la tradition. Et de toute l'écriture telle que l'Église la présente maintenant, avec les dogmes. Le théologien doit comprendre qu'il y a eu des dogmes. L'exégète ne regarde pas les dogmes. C'est peut-être ça, ça vous fait mieux comprendre. Oui. Le théologien, ce que je disais, et ce qu'on a lu au réfectoire exprès, avec des intentions particulières, que le père de Léval disait, on fait la théologie au XXe siècle. On est le théologien de l'Église. Je ne répète pas saint Thomas. C'est pour ça que ça m'est égal de dire, vous êtes thomiste ou pas thomiste. Je me sers de saint Thomas comme vous pourrez me servir de saint Bonaventure. Et je me sers aussi de saint Bonaventure de temps en temps. Maintenant, plus beaucoup, j'ai plus le temps. Mais je vais beaucoup lire du saint Bonaventure. Parce qu'il y a un côté affectif qui est très beau. Et qui est très grand. Comme je me sers de Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix m'aide à être théologien. Et la petite Thérèse aussi. On se sert de tout l'enseignement de l'Église en tant que théologien. Et je m'arrête maintenant, parce que c'est maintenant que ça s'arrête. Et je sais que ça va progresser demain. Je ne dis pas qu'à partir de Pie XII, la tradition est arrêtée. On se sert de la tradition vivante de l'Église. Et on est dans la tradition vivante de l'Église. Et le théologien est le théologien de l'Église du XXe siècle. Je ne suis pas le théologien de l'Église du XIIIe siècle. Non. C'est là où je suis au-dessus du conditionnement. Le théologien, comme co-théologien, est au-dessus du conditionnement. La communication de la parole de Dieu et de la vérité révélée. Comme le philosophe, vous voyez. est plus libre que le théologien. Ça, faut bien comprendre. Tous ceux qui vont commencer vers la théologie et qui ont fait la philosophie sentiront ça très fort. Au seul choix, quand je faisais un cours de philosophie et un cours de théologie après, je sentais ça. Le philosophe a une liberté folle comme philosophe. Il cherche la vérité. Le théologien est toujours subalterné. Serviteur. Pas commode, hein, des serviteurs et des théologiens. Le philosophe ne sera jamais serviteur. Oui, il sera serviteur dans ses applications pour aider les hommes à la recherche de la vérité. Mais dans son enseignement, il donne ce qu'il a compris. Et il est farouche. À la recherche de la vérité. Il est indépendant. L'autorité pour le théologien, c'est la dernière, pour le philosophe, c'est la dernière des raisons. Pour le théologien, l'autorité est tout le temps présente. Une autorité divine. L'autorité de l'Église, la tradition. Je n'ai pas le droit, en tant que théologien, de dire je romps avec la tradition. Ce sont des imbéciles avant moi. En philosophe, si je suis très grand, j'ai le droit de le dire. Comme Claudel disait, avant moi, rien. Je ne dépends de rien. L'artiste peut le dire. Regardez-moi, j'ai une originalité folle. Avant moi, on n'a rien dit très bien. Bon, il le dit, on sait très bien ce que ça veut dire. On ne va pas prendre ça comme des paroles qui disent la vérité, mais on prend ça en tant que c'est un poète qui le dit. J'ai entendu Claudel disant, je ne dépends de personne, sauf de Dieu. Je n'ai été influencé par personne, il l'a dit. À Fribourg, quand on l'a dérogé. Un philosophe qui dirait ça, on dirait, écoutez, et un théologien qui dirait ça, je dirais, alors, vous n'êtes plus un théologien. Tout simplement fini. Mais c'est ces points-là qui montrent et qui font sentir la très grande différence de l'étude théologique et de l'étude philosophique. Et il faut que nous sentions très fort la différence. Subjectivement. Et par le fait même aussi, objectivement, l'objet qu'on regarde. Alors je continue. Mais pour que son interprétation du texte dans son conditionnement respecte le sens ultime de l'écriture. Les sens ultimes de l'écriture. Les sens ultimes. C'est pas le conditionnement, les sens ultimes. Alors là, je suis. Le conditionnement reste conditionnement. Le sens ultime est donné par la foi. Et directement par la foi. C'est la foi qui touche le mystère. Dans toute parole humaine, il y a une signification essentielle. Il y a un mode, une modalité particulière du conditionnement. La signification essentielle est au-delà du conditionnement, puisqu'elle regarde la réalité. Elle est spécifiée par la réalité. C'est ce que j'appelle la signification. La signification n'est pas le conditionnement. Il faudra un cours sur la parole. Indispensable. Un cours de critique sur ce que c'est que la parole. Ce que c'est que la parole, ce que c'est que le concept, ce que c'est que la réalité. Là, j'ai l'impression que vous mêlez tout. Conditionnement et signification. Vous voyez, c'est la signification qui touche qu'est ultime dans l'écriture. C'est pas le conditionnement. Donc c'est au-delà du conditionnement. La parole est toujours liée à un conditionnement, mais la signification de la parole fait appel à la sagesse de Dieu, à la réalité. Au mystère. Je continue. Mais vous avez raison, hein. Je vous ai dit qu'il fallait dire tout ce que vous avez dans le cœur et tout ce qui vous arrête. Alors vous avez tout à fait raison de le dire. C'est très bien. Je vous félicite parce qu'il ne faut pas que parce que je critique vous arrêtez vos questions. Oh, il va me bazarder d'un seul coup. désire que vous ayez dans ce domaine-là, c'est tellement important. Et quand on fait un cours, vous voyez, quand je vous commente à Saint Thomas, je ne m'arrête pas, j'entre dedans et puis c'est tout. Alors il faut qu'il y ait un aspect critique à ce que nous faisons, c'est de la critique. C'est de la critique complexe, difficile, très difficile. Puisqu'elle est au niveau de la sagesse. La théologie est nécessaire à l'exégète parce qu'elle rappelle la finalité et la signification qui donne son sens propre à l'écriture. Saint Thomas dit, je crois que le sens mystique est, et le sens littéral, c'est pas tout à fait juste, que parmi le sens littéral, il y a le sens mystique. N'identifie pas les deux, parce que ça tombe encore dans une université. Il ne faut pas identifier le sens historique et le sens littéral. Il ne faut pas identifier le sens mystique et le sens littéral. Le sens littéral est plus vaste. Il a différentes demeures. Allez, ça on verra dans les sens de l'écriture. Et que le texte que fournit par ailleurs l'exégète doit pouvoir être porteur de cette signification ultime. Oui. Mais ce n'est pas l'exégète qui explicite la signification ultime. Sauf, et c'est normal, que l'exégète fasse aussi œuvre de théologien. Je n'ai rien contre, au contraire. Si tous les exégètes étaient des théologiens, ce serait beaucoup plus simple. Je distingue, mais je ne sépare pas exégèse et théologie. La distinction est une distinction de raison formelle, mais ce n'est pas une séparation. On est unis dans la foi. On est unis dans la même recherche. Quand un exégète fait l'exégèse, par exemple, de Saint Jean, je vous dis toujours, quand je vous parle de Saint Jean, je ne suis pas un exégète. Mais j'aime beaucoup, dans ma vie, heureusement, j'ai toujours eu des amis exégètes. Le premier, c'était le père Dreyfus, aux Aulnois. Dans un temps, nous faisions ensemble quand on voyait certaines bêtises qui se disaient, on était d'accord, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'opposition. Bon, on était toujours d'accord là-dessus. Le père Feuillet, le père Braun, c'est des amis. Et c'est de vrais amis. Auquel de temps en temps on s'envoie des bons petits coups, surtout avec le père Braun. Parce que quand le père Braun arrivait, avec malicieusement, n'est-ce pas, je prêchais en. Quand il était dans le ciel, alors il m'écoute. Alors, et que j'arrive, je prêchais à des bénédictines en Belgique, des bénédictines missionnaires. Et je prêchais sur le prologue de Saint Jean, c'est vieux, mais. Alors le père Braun arrivait. Sur quoi prêchez-vous, Père Marie de Munich ? Je dis sur le prologue de Saint Jean. Ah, le prologue de Saint Jean, qui n'est pas de Saint Jean ? Alors, vous savez très bien que. Alors je dis, hé, Père Braun, qu'est-ce que vous avez dit ce matin à la fin de messe ? Vous l'avez dit en latin, et vous comprenez. Initium, commencement d'évangile de Saint Jean. Alors, vous avez menti. Alors, taisez-vous. Parce qu'on était amis, on pouvait aller jusqu'au bout de certaines choses. Il pouvait me dire ça. Je voyais très bien ce qu'il voulait dire. L'exégète cherche. C'est un chercheur, l'exégète. Et de temps en temps, il trouve des perles très intéressantes. Et le théologien a dit, attention, un domaine. J'aime la réaction, vous voyez, d'un père Spic, quand il était devant le livre du père Louis-Xavier, en disant, ce n'est plus une exégèse, c'est une nouvelle théologie. Et c'est vrai, c'était une nouvelle théologie. C'était pas de l'exégèse. Je crois que c'est très important de maintenir les deux points de vue. de ne pas ramener toute la théologie à l'exégèse et ne pas mépriser l'exégèse. On doit tenir compte de ce que représentent ces études que l'Église a reconnues et que l'Église continue de retenir et qu'elle maintient. Il y a des examens particuliers pour les exégètes et qui sont assez durs. Tant quantité de théologiens raterait tout au point de vue d'un examen d'exégèse. Le Saint-Père avait dit malicieusement, une fois, c'est le Père Barthélemy qui m'a... C'est pas le Père Barthélemy qui avait raconté ça, mais... C'est un Rome qui avait dit ça. Le Saint-Père arrivant pour la commission biblique, en scellant les saluants en très bas. C'est à lire, tu restes dans la documentation catholique, il y a quelques années. J'avais demandé au Père Barthélemy ce que le Saint-Père avait dit. Le Père Barthélemy m'a un peu blagué, comme ça. Là, j'ai voulu savoir, j'ai regardé dans la documentation catholique. Et là, j'ai vu ce qu'il avait dit. Et quand il m'avait dit que le Saint-Père avait dit, pris un papier, c'est pas lui, j'ai trouvé exactement sa pensée, ce que m'aurait beaucoup étonné que le Saint-Père parlant à la commission biblique n'aurait pas écrit ça de sa propre main. Alors c'était très précis, il aurait dit, ce que je vous reproche, vous exégètes, c'est de ne pas être assez serviteur de l'Église. Il aurait pu le dire aussi aux théologiens. Ce que je vous reproche, vous théologiens, c'est de ne pas être assez serviteur de l'Église. Vous voyez, ça en disait long, ça. Et je sais comment le pape est arrivé. Il est arrivé en blaguant. En riant, quoi. En disant, ah, mes chers pères, mes maîtres, si je passais un examen, ce serait nul. Nul. Vous me refuserez. Et je ne suis pas exégète. Je suis pape. Oui, je crois qu'il faut respecter un philosophe, je ne demande pas d'être théologien, et ainsi de suite, il faut respecter que les sciences dans l'Église ont progressé. Et je ne peux pas reprocher à saint Thomas de ne pas avoir tenu compte de tel ou tel aspect d'exégèse, et que les citations de saint Thomas sont tout le temps la Vulgate, parce que c'était de son temps. Mais je ne peux pas reprocher à saint Thomas de ne pas avoir connu certaines choses que de fait aujourd'hui on précise. Et je dois me demander, est-ce que cette précision change la conclusion théologique? Pas toujours. Quelle est la place de l'écriture sainte au point de départ des théologies? Nous allons voir. Peut-on faire une théologie qui ne soit pas enracinée de manière principale dans l'étude de l'écriture sainte? Non. Vous voyez, c'est la foi. La foi se nourrit de l'Écriture sainte. C'est le bien premier de la foi. C'est la parole de Dieu. C'est le bien premier, avec la tradition. Les deux inséparablement, les deux sources de la foi. La tradition et l'Écriture sainte. C'est ce que nous allons voir maintenant. Parce qu'il faut avancer un peu. Ici, je suis ce que m'a demandé. Hein. Parce que je suis docile. Théologie et révélation. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Et le théologien est un croyant. Donc, vous comprenez bien, peut-on faire une théologie qui ne soit pas enracinée de manière principale dans l'étude de l'Écriture sainte? Dans l'étude de l'Écriture sainte, alors c'est là peut-être... Ou on pourrait préciser, je dirais, dans la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu peut être étudiée de diverses manières. Donc on est en présence de la révélation. La révélation, vous savez bien ce que représente la révélation. Je vous ai amené ici un livre que, au seul choix, quand nous faisions nos études, on devait tous lire. Le donner révélé et la théologie du Père Cardin. juste un peu vieux. C'est vrai. Mais il s'ajaunit. Donc, différence de couleur. On voit très bien. Ça reste bon. Il y a, je l'ai relisé rapidement pour vous tout à l'heure. Je n'ai pas tout lu. Mais j'ai lu ça dans le temps et je me suis délecté là-dedans. Parce que le père Gardeil est intelligent. C'est le grand Gardeil, Ambroise. Il est intelligent. Ça a sûrement été un grand théologien de son temps. Il a beaucoup réfléchi. Il a des choses amusantes, le père Gardeil. L'introduction à la structure de l'âme. C'est très intéressant. Il y a deux manières d'écrire. D'une manière claire et superficielle. D'une manière profonde et obscure. Je choisis la seconde. Donc d'avance, il met un grand paravent pour empêcher toutes les critiques qu'on lui ferait. Il allait dire tout à l'heure, vous n'avez pas compris, parce que j'écris de façon obscure. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas. Parce qu'on peut écrire de façon claire et intelligente et profonde. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Alors, le père Gardeil, dans cette étude, et bien, évidemment, elle est dans un contexte historique. Et le contexte historique de tout ce que représentait le modernisme. Mais ce n'est pas mauvais, une fois dans sa vie, de comprendre ce que c'est que le modernisme. Parce qu'il est là-dedans, je vous l'ai dit au début. Mais ne pas connaître de tout ce que c'est que le modernisme à la fin du XXe siècle, c'est dommage. Parce que c'est quand même dans notre siècle. Alors notre siècle, quand même, on est né dans ce siècle. Donc on est enraciné dans ce siècle. Même si on est encore jeune à la fin. Alors il commence par une étude philosophique qui regarde les notions et dit que c'est nécessaire. Ensuite, sort au chapitre la révélation. La révélation, tout de suite. Et vous voyez, le contexte est très très nettement par rapport au modernisme. On ne dirait plus ça maintenant tout à fait comme ça. Il existe des vérités humaines fixes et irréformables. Affirmation de fait, affirmation de droit. Nous dirions-nous, l'intelligence humaine est capable d'atteindre des principes. Au point de vue philosophique. L'intelligence humaine est capable, mais ces principes, je peux les formuler toujours d'une façon plus ou moins précise. Mais, tandis que lui, il prend des affirmations fixes et irréformables. Et c'est assez délicat. Alors, on bloque un tout petit peu la manière d'exprimer et la réalité saisie. Qu'est-ce que je saisis quand je saisis un principe? Je saisis quelque chose de premier, qui est absolu. Ce au-delà de quoi je ne peux pas monter. Allez. Donc, c'est quelque chose de premier. Quelque chose de premier est absolu, puisqu'il n'est pas relatif. Quelque chose de second est relatif, puisqu'il est second. Il est relatif au moins premier. Et je vois très bien, ça c'est tout à fait contre le point de vue moderniste qui disait que notre connaissance humaine ne pouvait rien. Tout était donné dans des formules qui pouvaient toujours changer. La formulation peut changer, mais quand on saisit un principe philosophique, il est absolu, quelque chose d'absolu. Tandis que quand je saisis quelque chose d'accidentel, le conditionnement, il est relatif. Le demi-révélé, source du dogme et de la théologie, participe-t-il à cet absolu? Oui. manière de regarder, oui. C'est intéressant, parce que c'est intelligent. Mais on regarde les choses de façon assez différente aujourd'hui. Moi, je partirais de la foi. Je dirais, le croyant, à travers la révélation, saisit-il quelque chose d'absolu? Je partirais de la révélation, tu vois, c'est ce qu'il fait tout de suite, il est tout de suite amené à la révélation pour saisir dans la révélation différents aspects. Oui, alors il prend le tout de suite après, théorie anthropomorphique de la révélation. On voit très bien ce que ça veut dire. Donc tout est vu uniquement en fonction de l'homme. Est-ce que la révélation saisit quelque chose d'absolu? Est-ce que la révélation saisit le mystère à travers un langage humain? Oui, c'est la foi, ça, qui se sert de la révélation. La révélation m'est donnée de fait successivement. Le début de l'Épître aux Hébreux. Et ça, c'est l'Écriture elle-même qui reconnaît que, de fait, ça m'est donné successivement. La révélation m'est donnée à travers une histoire. Mais est-ce que la révélation saisit plus que l'histoire? Oui. Parce que cette histoire, elle, me permet d'atteindre autre chose. Et que, à travers l'histoire, on me révèle le mystère de Dieu. Tout de suite. La révélation se présente comme une parole divine qui m'est donnée. Dieu dit à Abraham. Dieu parle à Abraham. La première parole de la révélation à un homme. Parce que, de fait, dans la Genèse, je suis en phase de tradition, transformée par le point de vue de l'inspiration. Mais c'est quand même un point de vue de tradition. Tandis qu'avec Abraham, je suis en phase d'une parole de Dieu, communiquée à un homme. Comment Abraham a-t-il reçu cette parole? Il a reçu une parole divine. Qu'est-ce que c'est que recevoir une parole divine? La révélation contient les paroles de Dieu aux hommes. Des paroles de Dieu aux hommes à travers des traditions, à travers des hommes qui ont vécu à telle ou telle date, à travers des gestes des hommes. Mais il y a une parole divine. Et alors, à travers ces paroles, qui sont des paroles humaines, mais qui ont un sens divin, qui est l'inspiration. Ma foi dépasse le conditionnement humain de ces paroles pour atteindre une révélation, c'est-à-dire une vérité qui m'est révélée, le mystère de Dieu qui m'est révélé. Mais on analysera tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas ici directement, on analysera tout à l'heure ce que Dieu dit à Abraham, au point de départ. Où est la vérité révélée? C'est intéressant de se poser la question. Quand Jésus parle et qu'il parle du Père, c'est très simple. C'est le Père. C'est le mystère du Père. Quand Jésus dit « Je suis », c'est le mystère de Jésus. On est en présence d'une personne. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'est plus difficile. Sauf quand les prophètes parlent de Dieu, ils parlent, Dieu a dit, bon, parole de Dieu. Et Dieu se révèle, pas toujours directement, il se révèle à travers des activités, à travers. Dans la révélation, il y a des quantités de choses. Mais c'est quand même la révélation. Et c'est pour ça qu'à travers la révélation, on essaiera de préciser ce que représente l'enseignement que Dieu nous donne. Et c'est très vite ce que les pères de l'Église ont fait. Ce que même vous voyez dans les Actes des Apôtres. Quand vous voyez dans les Actes des Apôtres le premier discours, le premier sermon de Pierre, on est impressionné. Pierre résume des choses essentielles de façon très nette. Donc, vous êtes là, vous voyez, j'allais dire, une révélation au carré. C'est ce qui existe après le Christ. Quand vous regardez l'Épître aux Hébreux, vous êtes en voie une révélation, mais au carré. Parce que on regarde ce qui, dans la révélation, est l'essentiel. Les points essentiels. On veut montrer le mystère du sacerdoce et le sacerdoce du Christ, qui est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Oui. Donc on voit une réflexion qui n'est pas seulement la réflexion d'un homme croyant. On est en face d'une réflexion inspirée. Alors, il y a presque dire d'une théologie inspirée. Bon, c'est une chose qui m'impressionne beaucoup dans l'Épître aux Hébreux. Quand je suis en face de Pierre, qui fait ce discours le jour, on est en face aussi, j'allais presque dire, d'une inspiration au carré. Puisque c'est un résumé de tout ce que Pierre a reçu. Et c'est Pierre qui parle. Les évangélistes parlent de Jésus qui dit. Là, c'est Pierre qui parle. C'est pas Jésus, c'est Pierre. Il parle au nom du Christ. Il parle au nom de l'Esprit Saint. Il envoie un message. Oui. Distinguons donc bien à travers la révélation. Toutes ces zones diverses. Saint Thomas n'hésite pas de le faire. Il dit, il y a des choses essentielles et des choses secondaires dans la révélation. Mais tout est dans la révélation. Mais il y a des choses secondaires. Parce que je suis obligé de croire que tout ce qui est raconté dans la révélation, c'est d'autres choses dans la révélation. Quand on donne les généalogies, est-ce que ces généalogies représentent exactement ça? Parce que certains, ce qu'on appelle le fondamentalisme, regardent les générations et disent, vous voyez la création, c'est arrivé à telle époque. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on voit bien que là sont des classifications. C'est pas du tout comme un historien. Donc, il faut d'abord se dire que dans la révélation fondamentale, il y aura des choses secondaires, des choses essentielles. C'est pour ça que je lis, le croyant lit toujours la révélation à travers une tradition. Et l'enseignement actuel de l'Église. Toujours. Quand vous lisez la Genèse, vous ne lisez pas la Genèse comme quelqu'un qui dit « J'ai le droit de penser ce que je veux après tout ». Non, pas du tout. Il y a une tradition. Toute l'Écriture est enveloppée de la tradition. C'est pour ça qu'on dira qu'il y a deux sources de la révélation, la tradition et l'Écriture. Et les deux se tiennent. Ce qui est très important pour le théologien, c'est la question du dogme. Puisque de fait, il y a eu des conciles qui ont précisé. Et c'est là où on saisit le point de départ du théologien. Vous voyez, pour aller plus vite. Quand vous regardez la christologie de saint Thomas, c'est toujours le dogme qui est présent. Et tous les conciles qui sont présents. Et saint Thomas ne revient pas. Oui, l'Écriture est présente, parce qu'elle est présente dans le dogme. C'est ça qu'il faut bien saisir. À la différence de l'exégète, à la différence d'une théologie biblique, qui regarde directement la parole de Dieu. Oui. Alors on va regarder dans quelques minutes.